Vous écoutez la Radio Mucho, qui partage des histoires des descendants africains. Mon nom est Marat Naimana, je suis un jeune journaliste, graduant du programme du Black Diplomats Academy, organisé par Dialot. Mucho Radio vous présente des invités qui racontent leur vie et les expériences qui impactent nos auditeurs. Notre invitée du jour est une Burundaise canadienne engagée dans la communauté, Sandra Balanchira. Sandra travaille pour les Affaires mondiales Canada, première secrétaire du Sudan International Assistance qui est située à Addis Abeba en Éthiopie. Notre conversation porte sur les expériences de sa vie et elle pourra nous partager ici sur la Radio Mucho. Bienvenue Sandra sur Mucho Radio. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît?
Je vous remercie énormément pour m'avoir invité à venir à votre émission. Alors, mon nom est Sandra Balanchira. Je suis donc canadienne d'origine burundaise. Cela fait 31 ans que je suis dans ce beau pays qui est maintenant le mien, qui est maintenant le nôtre, le Canada. Alors, le Canada, bon, comme la plupart des de mes concitoyens d'origine burundaise, je suis venue ici relativement jeune, adolescente, suite à des conflits qui se passaient dans la sous-région, notamment au Burundi et Rwanda. On parle souvent du Rwanda, mais il y en avait aussi au Burundi. Je suis arrivée ici au Canada en tant que demanderesse d'asile et depuis voilà je me sens c'est quelque chose qui peut-être va choquer nombreux de panafricanistes qui seront à l'écoute, mais lorsque justement on adopte un pays, veut pas, on change, on embrasse les valeurs de ce pays-là et on change, on devient comme au fait une personne qui est une personne avec une culture hybride. Hein, non seulement, oui, il y a la culture du pays d'origine, à travers l'éducation que l'on a reçue, à travers l'enfance que l'on a passée là-bas, mais aussi, on est transformé aussi par le pays hôte qui nous accueille et qui change de notre manière de penser, ainsi que nos valeurs, notre manière de travailler, notre philosophie face à la vie, etc. Mon enfance, je dois quand même le souligner, je suis née de parents diplomates, donc je suis née en Europe, plus précisément en Belgique, et les premières années de ma vie, je les ai passées en France, jusqu'au tendre âge de 10-11 ans. Ensuite de ça, on a déménagé au Burundi, où j'y ai passé 8 ans. Dans les 8 ans, par contre, parce que je suis arrivée au Burundi à une période charnière de ma vie, qui est l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est là où on recherche son identité. C'est là où on est confronté à plusieurs réalités, notamment à des réalités, oui, culturelles, etc. Et donc, cette période-là, c'est là où j'ai appris la langue. C'est là où j'ai appris à parler le kirundi, c'est là où j'ai appris à danser la danse traditionnelle, c'est là où j'ai vraiment embrassé mes origines burundaises, notamment en passant du temps dans la campagne, à l'intérieur du pays, avec la famille, surtout de mon père, à échanger avec ma grand-mère, avec mes tantes qui habitent dans la région rurale de Igenda, et c'est là où justement où ces valeurs-là sont, parce qu'il y a de la curiosité, par exemple au niveau des salutations, lorsque les tantes arrivaient et puis qu'elles faisaient ces embrassades qui prenaient du temps. J'avais l'impression que je passais 5 minutes où il y avait un échange de bénédictions, hein, où ils te disaient voilà, je ne sais pas comment le traduire en français, mais où on te bénit juste avec une salutation. Et tout ça, c'est quelque chose qui, dans l'esprit de l'adolescente que j'étais, me fascinait. comment est-ce que justement, dans la culture même, lorsque tu rencontres l'autre, tu le bénis, tu lui souhaites le meilleur, tu lui souhaites une famille, tu lui souhaites prospérité, tu lui souhaites des enfants. Donc voilà, donc ça c'est parmi les valeurs que j'ai appris, les valeurs profondes du Burundi, que malheureusement on a tendance à oublier. Le peuple Burundi, le peuple burundais est un peuple qui est foncièrement chaleureux, qui est foncièrement bon. Rien qu'avec ses traditions, rien qu'avec ses salutations, on le sent, on le voit. On arrive en Amérique du Nord, dans le pays, je pense que c'est il y avait un des chanteurs des années 80 québécois qui le chantait si bien, mon pays c'est l'hiver, où le froid est une, non seulement le froid, mais cette manière dont l'hiver, au fait, le soleil a tendance à être la lumière, s'amenuise. Et on doit apprendre à vivre non seulement dans un environnement qui est froid, dans un environnement où le soleil n'est plus nécessairement le soleil qu'on avait en Afrique, mais non seulement ça, mais aussi au niveau de la culture. Comme vous le savez, en Afrique, c'est très communautaire. Les gens viennent sans nécessairement s'être annoncés, ils arrivent, c'est très familial, c'est très communautaire. Au Canada, on apprend la solitude, on apprend que c'est ça, que la débrouillardise aussi. C'est quelque chose qui a été un choc pour moi, c'est-à-dire de passer à l'enfant d'eux, qui vient de tel endroit, à une personne qui n'est pas connue même dans le voisinage, même dans l'immeuble dans lequel je vivais, je ne connaissais pas mon voisin et mon voisin ne me connaissait pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été un choc pour moi les premières années. Bien sûr, on est là pour quelque chose. Lorsqu'on vient dans un pays, oui, on prend ce qui nous est donné, mais aussi on est là pour apporter quelque chose de nouveau. Et je pense que ces valeurs-là, cet esprit de communautarisme, cet esprit de vouloir connaître son voisin, c'est quelque chose, je pense, que on peut apporter lorsqu'on arrive là. Mais au tout début, c'est un choc. Donc. N'être qu'un, et aussi le fait que l'identité se résume à un numéro à 9 chiffres, en tout cas tout ça c'était pour moi un choc. La valeur du Ubuntu n'est plus. Voilà, ça c'est vraiment, ça a été mon premier choc quand je suis arrivée au Canada. Ton fardeau est ton objectif dans la vie. Your burden is your purpose. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui t'a tellement affecté, qui ça devient à ce moment-là pour toi ton appel, pour que justement tu puisses amener un changement. L'expérience vécue, cette expérience de solitude intense, cette expérience où justement tu as l'impression que il n'y a personne autour de toi, il n'y a personne pour te supporter, pour te soutenir, tu n'as plus ce côté communautaire, ce côté familial. Pour moi, lorsque justement il y a eu la vague de nouveaux arrivants burundais qui est arrivée, j'ai senti cet appel de faire partie d'un plus grand d'une vague de ceux qui étaient déjà là, qui avaient des gens, donc qui étaient déjà passés au travers de ces expériences-là, de pouvoir non seulement assister ces nouveaux arrivants-là, mais aussi de pouvoir parler en leur nom. Quand on arrive, comme je vous le dis, on est un numéro, on est demandeur d'asile, ou sinon on n'a même pas de statut. Si on a des personnes qui sont ici, qui connaissent déjà le système, qui sont bien intégrées, à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre ce rôle-là de pouvoir assister ces gens-là, qui font face à des défis qui sont énormes. Et c'est comme ça que justement je me suis engagée avec d'autres Burundais à pouvoir assister ces nouveaux arrivants, mais surtout à parler, à pouvoir faire un plaidoyer pour eux auprès des instances municipales, auprès de la police, auprès des politiciens, auprès des autres organisations communautaires.
Sur le mur de votre LinkedIn est écrit ceci. Avant de parler, écoute. Avant d'écrire, pense. Avant de dépenser, gagne. Comment pensez-vous que ces phrases résonnent-elles pour la jeunesse d'aujourd'hui?
Ah, waouh. Vous savez, nous sommes dans une ère où le paraître est quelque chose de est un outil pour pouvoir monter les échelons, est un outil pour pouvoir être visible, est un outil pour pouvoir gagner de l'argent, ou sinon pour réussir en fait, le paraître. On a oublié ce que c'était que d'être authentique. Être authentique, c'est premièrement pouvoir s'écouter soi-même. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi est-ce que on veut porter un masque face à l'autre? Pourquoi notre côté authentique ne nous paraît pas assez attirant pour aller vers l'autre? Donc nous écouter réellement et aussi écouter notre parcours, écouter ce que nous on considère comme nos défauts, écouter et quand on s'écoute, on apprend aussi à écouter l'autre. Parce que souvent, lorsque on dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, souvent on écoute pour répondre. On n'écoute pas pour écouter. Et c'est pour ça que, or, lorsqu'on écoute réellement l'autre, le message qu'on a à transmettre est beaucoup plus important que ce que dans une joute de paroles. Donc, à la prochaine génération, vraiment, je leur dis, d'abord, écoutez-vous. Et en apprenant à vous écouter, vous allez apprendre à écouter l'autre. Et bien sûr, cela va de soi. On va apprendre aussi à penser, à réfléchir, à analyser, à voir exactement la perspective de l'autre. D'où est-ce qu'il vient? Parce que chaque personne a sa propre réalité. Votre parcours dans votre vie a fomenté votre réalité, a fomenté votre perspective. La même chose avec mon parcours dans ma vie qui a fomenté ma réalité. Donc, il faut penser d'abord. Donc, écouter d'abord l'autre, pas pour une répartie, juste pour l'écouter. Penser. Et bien sûr, la chose la plus importante, nous avons tendance, encore une fois, parce qu'on veut paraître, à dépenser pour alimenter ce paraître-là, alimenter ce masque-là. Mais pourquoi est-ce que, premièrement, on n'apprend pas à gagner quelque chose, à vivre des fois même dans la précarité, afin de pouvoir gagner, pas juste gagner de l'argent, gagner en expérience, gagner en expertise. Même dans le plus bas des échelons, on apprend tout le temps. Même dans un emploi pour lequel on n'était pas supposé être dans cet emploi-là. Je parle surtout des gens qui sont venus avec des diplômes, avec des expériences, etc., qui se retrouvent ici et ils se retrouvent à faire des emplois qu'ils considèrent comme étant de bas emplois. Là aussi, on a tout le temps quelque chose à apprendre, à gagner. This is earning as well. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait cet exercice-là, à ce moment-là, on peut écrire, on peut parler, parce qu'on a quelque chose à offrir. On a quelque chose à offrir au monde. Et donc, c'est ça le message que je donnerai à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est assez atypique, hein, je dois vous le dire. Alors, quand j'ai commencé mes études universitaires, j'ai commencé mes études universitaires comme tout le monde, et comme beaucoup de jeunes, avec nécessairement pas une idée de d'où est-ce que je voulais aller. C'était beaucoup plus avec les conseils de mes pères, les conseils de mes parents, mais je ne me connaissais pas. Hein? Ça vient justement à la fait de le premier point là dont j'ai dit, s'écouter, qui nous sommes. Je ne savais pas qui j'étais. Et parce que je ne savais pas qui j'étais, mes études universitaires, au tout début vraiment, je n'avais aucun intérêt. J'étais juste à l'université pour pouvoir satisfaire aux désirs de mes parents et aux attentes de ma communauté ainsi que de la société. Parce que justement je ne m'étais pas écoutée, je ne me présentais même pas au cours. Juste pour vous dire, je ne me présentais même pas au cours, j'étais donc en sciences politiques, je ne me présentais même pas au cours, ou sinon quand je soumettais un papier, c'était vraiment là le strict minimum. À ce moment-là, justement, j'ai eu une crise d'identité, une crise identitaire. Je me disais, mais qui suis-je? Qui suis-je et quel est mon rôle dans cette société? Quel est mon rôle dans la vie? Alors que je me questionnais, je suis tombée enceinte, hein, de mon copain de l'époque et j'ai décidé de garder l'enfant. Donc, c'est ça, donc de garder l'enfant, que ça c'est, comme vous le savez, au Canada, on peut décider aussi de ne pas garder l'enfant. J'ai décidé de garder l'enfant malgré ma situation précaire socio-économique, parce que je n'étais juste qu'une jeune étudiante. J'ai gardé l'enfant, nous avons déménagé à Ottawa, alors que c'était encore un enfant, donc de Montréal à Ottawa, alors que c'était un jeune enfant. Et de là, j'ai appris. J'ai appris énormément de gens qui de mon voisinage, des gens qui vivaient aussi dans des situations précaires, des personnes d'un peu partout, Somalie, Djibouti, Irak, Congolais, etc., etc., Filipinos. J'ai appris de chacun d'entre eux, de leur culture. En fait, j'ai voyagé pendant ce passage. J'ai voyagé tout en restant à Ottawa. J'ai appris de leur culture, de leur langue, de leur nourriture, etc. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné un peu le... Et c'était pendant la période, oui, je voulais vous le dire aussi, c'était pendant la période 2000-2001. Donc, post 9/11. D'ailleurs, 9/11, je le regardais de ma télévision. Je regardais tout ce qui se disait, tout ce qui se discutait dans les médias. Il n'y avait pas de réseau social, de réseau social à cette époque-là. De CNN à BBC à Euronews, etc. Et j'analysais les perspectives. Comme je vous l'ai dit, différentes perspectives. Lorsque les États-Unis ont décidé justement d'aller en guerre contre l'Irak, je suivais aussi. Lorsqu'il y a eu les soulèvements à Paris, etc., qui ont eu lieu à cette période-là, alors que la France avait décidé de ne pas participer au conflit avec l'Irak, etc., etc. Donc ça m'a donné, en fait, parce que je comprenais tout. Je faisais des analyses. Et là, je me suis dit, ah, au fait, je viens de voir où que je m'en vais. Je m'en vais en communication. Je m'en vais en développement international. Et c'est comme ça que donc, en 2008, je me suis moi-même inscrite, réinscrite à l'université pour faire mes études en communication et en développement international. J'ai commencé même un blog, l'Observatoire des médias internationaux, où justement je faisais cette analyse-là. Je prenais par exemple un événement J'allais voir comment est-ce que cet événement était rapporté par les différents médias, mainstream media, ainsi que les non-mainstream media. Et je regardais comment les analyses étaient faites. Et c'est comme ça donc que je me suis retrouvée avec cette passion et que j'ai terminé mes études en communication et en études internationales, en développement international. Et voilà.
Pensez-vous que créer une radio africaine est importante pour la communauté?
Tout à fait, parce que bon, vous savez, en Europe, l'Europe, dont la plupart des pays sont des pays qui ont une relation assez étroite avec l'Afrique à cause de leur passé colonial, ils ont accès et ils écoutent aussi, ils ont accès à des experts donc qui viennent de l'Afrique, ils ont accès aussi à une forte population immigrante d'origine africaine à qui on a donné une plateforme et qui est reconnue. Au Canada, malheureusement, ce n'est pas un pays qui a colonisé en Afrique, mais le Canada a besoin de cette expertise-là. Le Canada a besoin de pouvoir être d'avoir accès justement à ces communautés d'origine, d'ascendance africaine, pour qu'il y ait ces connaissances-là qui leur soient transmises, ces subtilités-là. Ces subtilités que seule une personne qui vient de là peut comprendre. Hein? Par exemple, lorsqu'il y a un conflit dans telle région, il faut en comprendre l'histoire, il faut en comprendre le portrait ethnographique, il faut comprendre aussi les pays de la sous-région, comment est-ce que les populations se sont entremêlées, les anciens conflits, est-ce que ça a été résolu, etc. Et ça ne peut être que transmis par des gens qui viennent de là. On a beau amener des experts avec des doctorats hein, qui viennent de McGill, de Harvard, de Stanford, de je ne sais où, ils ne pourront jamais avoir le grasp de la situation de la situation dans ces pays-là, surtout en ce qui concerne ces subtilités sociales, ces subtilités économiques, ces subtilités commerciales. Hein. Par exemple, on pense que lorsqu'on est ici, on pense qu'une frontière, on la pense comme une personne. Quand on pense à ça, ici, en étant une personne du Canada, on la pense de manière occidentale. Les frontières ici sont sacrées, sont complètement sacro-saintes. En Afrique, pour les populations locales, les frontières n'existent pas. On passe d'un territoire à l'autre pour aller faire son marché, pour aller rencontrer, pour aller voir sa famille, pour aller voir. Donc il n'y a pas de frontières en tant que telles. Donc tout ça, ces subtilités-là, c'est des subtilités, par exemple, que les personnes afro-descendantes peuvent apporter au Canada pour qu'il y ait une meilleure compréhension, surtout quand on s'engage à faire du commerce, quand on s'engage à faire du développement international, quand on s'engage à donner de l'assistance humanitaire.
Que pouvez-vous partager des relations entre le Canada et l'Afrique?
Le Canada a beaucoup apporté à l'Afrique. Le Canada a beaucoup apporté à l'Afrique parce que elle a toujours eu une relation cordiale avec l'Afrique, que ce soit au niveau de la francophonie ou sinon à travers sa propre population. Il y a une population afro-descendante qui n'est pas à ignorer. Cette population afro-descendante, grâce au multiculturalisme, parce que une des choses que le Canada a de plus que les États-Unis ou encore que l'Europe, c'est qu'à travers son multiculturalisme, qui fait partie de l'identité canadienne, ils embrassent le fait qu'une personne qui est issue de l'immigration a deux identités, a non seulement une identité de là où il vient, notamment dans le cas dont nous parlons, donc une identité burundaise, une identité kényane, une identité ougandaise, une identité algérienne, etc., ainsi qu'une identité canadienne. Donc, ils embrassent cela. Hein? C'est pour ça que même lorsqu'on regarde, lorsque le nombreux, surtout en été, les nombreux célébrations multiculturelles qui ont lieu à travers le Canada, qui justement célèbrent cette diversité, célèbrent le fait que le Canada est un melting pot, pas un melting pot où les gens se fondent, un melting pot comme une mosaïque de culture, une mosaïque d'identité.
Quel est votre message à la jeunesse pour ne pas lâcher quand tout semble impossible?
En effet, la jeunesse, la vingtaine et la trentaine, ce ne sont pas des périodes faciles. Ce sont des périodes où on c'est vraiment, c'est essai-erreur. Ce sont des périodes où on tombe, on échoue beaucoup. Il y a beaucoup d'échecs. Et c'est comme ça l'apprentissage. Quand on regarde un bébé, lorsqu'il apprend à marcher, il tombe, il se fait mal, il pleure, jusqu'à temps qu'il apprenne à marcher. C'est comme ça dans toute forme d'apprentissage. Le succès n'est pas au fait, is not the end. Success is part of the process. Les échecs sont les apprentissages que vous avez. Les échecs, ça forme votre caractère. Les échecs, ça vous apprend l'humilité. Surtout ça. L'humilité, c'est la plus grande arme qu'une personne puisse développer à travers les échecs par lesquels il passe. Donc, apprenez l'humilité. Ensuite de ça, le succès is not the end. Ce n'est pas la fin. Non. Ça veut dire que vous avez fini une étape. Maintenant, il y a une autre étape. L'autre étape, ça va être exactement la même chose. Échec, échec, échec. Pendant tous ces échecs-là, vous vous questionnez. Vous questionnez votre propre existence. Vous questionnez votre propre rôle dans la société. Et ça, c'est OK. Mais l'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter d'espérer. C'est d'arrêter de croire en la vision qui se dessine à travers ces échecs-là. Parce que les échecs, c'est des apprentissages. La chose à ne pas faire, c'est de s'asseoir. La chose, même si on est en train de marcher sur place, parce que l'échec, souvent, it feels like tu es en train de faire du surplace. Le surplace aussi, tu es en train de bouger. Même si tu ne bouges pas en avant, tu es en train de bouger. Des fois même, on a l'impression qu'on retourne en arrière. Là aussi, on bouge. Quand on retourne en arrière, on bouge. Regardez l'athlète avant qu'il ne prenne son saut. Il retourne en arrière. 1, 2, 3, 4, 5 pas pour pouvoir mieux sauter. Et c'est ça la vie. Pendant votre vingtaine et votre trentaine, c'est ce qui va se passer. Autre chose, le paraître. Le paraître, ça tue. Soyez authentique. Soyez authentique même lorsque ça ne va pas. N'essayez pas de prétendre d'être une autre personne. Et enfin, la dernière leçon, le dernier conseil, je veux dire, ne comparez pas votre parcours avec celui de l'autre. Jamais. Chacun a son parcours individuel. Si l'autre semble à réussir et tout va bien avec cette personne-là, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Mais ne vous comparez pas. Vous avez votre propre parcours et vous allez avoir vos propres réussites. Juste attendre votre moment. Votre moment va arriver. Mais ne jamais, jamais lâcher. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et encore une fois, félicitations pour cette initiative qui est le Mucho Radio. J'applaudis et je vous encourage dans cette initiative-là. Moi, en tout cas, je suis pour ce genre d'initiative. Je suis très contente que vous ayez communiqué avec moi. Et je n'avais jamais entendu parler de la radio Mucho. Quand j'ai vu votre message, je me suis dit, oh, ok, ça c'est intéressant. Là, je suis allée voir justement le site web, etc. J'ai trouvé ça, c'est ça, donc je suis allée voir les différentes interventions que vous avez postées sur votre site web et j'ai trouvé ça fascinant. Donc non, franchement, je vous encourage, ça c'est une chose dont je rêvais justement, hein, je Je rêvais qu'il y ait une radio, une plateforme qui puisse justement mettre de l'avant les diverses voix des communautés afrodescendantes. Et puis, vraiment, bravo.
Merci Sandra d'avoir accepté notre invitation et j'espère que nos auditeurs auront apprécié notre conversation. À bientôt.